Chapitre 37. Lutte contre l'évêque Oregan. Dans le courant de l'année 1852, Mgr Van de Velde se fit nommer évêque d'un autre diocèse, ne pouvant plus supporter le fardeau écrasant que la lutte avec ses prêtres ivrognes et débauchés rendait insupportable. Il fut remplacé par un Irlandais, Mgr Oregan, qui se montra dès l'abord très hostile à mon égard et même me fit intenter un procès pour me diffamer aux yeux du peuple. Mais j'obtins gain de cause et on me laissa tranquille quelque temps. Je sentis clairement, cependant, que ce calme n'était que momentané et que la tempête ne tarderait pas à éclater avec violence. Je m'y préparais en rapprochant mon âme de Dieu et en étudiant sa parole avec plus de soin que jamais. Tout en continuant à prêcher à mes paroissiens sur leur devoir de chrétien, je commençais aussi à leur faire connaître plus clairement leur droit d'enfant de Dieu et de disciple de Jésus-Christ. Je les pressais de méditer avec toujours plus de sérieux les saintes écritures qu'ils possédaient tous. Cela m'attira un blâme irrité de mon évêque qui me fit venir à Chicago et eut avec moi un entretien qui ne fit que me confirmer dans ma résolution de vivre selon les principes de la parole de Dieu. « J'apprends des choses étranges et déplorables sur votre compte, » me dit Mgr Oregan sans préambule. « Vous ne prêchez plus les doctrines de votre Sainte Église et même vous vous élevez contre elles. De plus, vous vous faites colporteur de Bible et de Nouveau Testament. Vous savez pourtant que cela est interdit. » « Monseigneur, lui répondis-je, une partie des bruits qui vous sont parvenus sont de pures calomnies. Mais il est vrai que j'aime à distribuer et à faire lire les saints évangiles. C'est mon droit comme mon devoir, car je suis convaincu qu'une des plus puissantes prédications que l'homme puisse entendre est celle qui vient de la bouche même de Dieu, nous parlant dans sa parole. Ce que vous dites là est du protestantisme tout pur, dit l'évêque avec colère. Monseigneur, répondis-je avec calme, si c'est être protestant que de lire et faire lire la Bible, notre Saint-Père, le pape Pie VII, devait être un bon protestant lorsqu'il bénit Martini pour avoir traduit la Bible en italien en exhortant le peuple à la lire. La colère, j'oserais dire la rage de l'évêque, éclata alors. Mettant son poing devant ma figure, il cria avec fureur. « Vous n'êtes qu'un protestant déguisé. La Bible, voilà votre devise, votre religion. La Bible est tout pour vous, et votre Église, vos papes, vos évêques ne sont rien. Insolent, blasphémateur. Dans un jour néfaste, vous avez été nommé prêtre de mon diocèse, mais je saurai vous faire souvenir de vos devoirs. » Là-dessus, il me chassa de chez lui. Que le Seigneur en soit jamais béni. Les persécutions et les outrages que j'ai subis pour l'amour de la Sainte Bible n'ont rien ôté à l'amour, au respect et à la confiance que je lui avais voué depuis ma plus tendre enfance. Bien au contraire. La première chose que je fis de retour chez moi fut de prendre ma précieuse Bible entre mes mains, de me jeter à genoux et de demander à Dieu de me faire la grâce de l'aimer et de la faire aimer de plus en plus autour de moi. L'évêque de Chicago ne tarda pas à commettre des crimes qui lui attirèrent de toutes parts des plaintes et des protestations indignées. Après une nouvelle infamie, par laquelle il dépouilla la congrégation française de Chicago de son église pour la vendre aux Irlandais, je me décidai à lui parler ouvertement. Dans sa fureur, il menaça de m'interdire et peu après me fit de nouveau intenter un procès à Kankakee, ville située près de Sainte-Anne, mais j'en sortis pleinement justifié. Je bénissais Dieu pour cette nouvelle victoire lorsque mes avocats me firent savoir que Spink, l'agent de l'évêque dans toute cette affaire, avait demandé et obtenu de continuer le procès à Urbana, dans un comté voisin, et que j'allais continuer à être prisonnier jusqu'au mois de mai, date de la prochaine session de la cour criminelle. Nous étions en novembre 1855. Cette nouvelle m'accabla de honte, de douleur et d'appréhension. Il me sembla que Dieu m'avait abandonné et qu'il allait me laisser tomber sous les coups de mes impitoyables ennemis. Je me trompais. Jamais ce Dieu bon ne m'avait gardé plus près de son cœur et jamais il ne me protégea d'une manière si visible qu'en cette heure de désolation. Je reçus à ce moment la visite d'un inconnu qui me parla avec une sympathie et un respect qui me firent du bien et qui me conseilla de m'assurer les services d'Abraham Lincoln, célèbre avocat de Springfield. Je le fis et c'est ainsi que commencèrent mes relations avec cet homme admirable que j'eus plusieurs fois le plaisir et le privilège de voir pendant qu'il occupait le poste d'honneur auquel l'ont élevé l'estime et la confiance de son peuple. Je ne puis raconter toutes les infamies qui furent révélées au cours de ce procès, qui se termina par le désistement de mes ennemis, poussés par la crainte de voir publier leurs machinations diaboliques contre moi. Abraham Lincoln, qui m'avait consacré bien des semaines d'un travail acharné, refusa tout honoraire et me fit ainsi contracter une dette éternelle de reconnaissance envers lui. Le 3 septembre 1856, nous vîmes arriver à Sainte-Anne trois prêtres ivres qui clouèrent sur la porte de l'église un arrêt d'excommunication lancé contre moi par l'évêque Aurégan. Mais cet arrêt, qui ne reposait sur aucune base canonique, n'était même pas signé de la main de l'évêque. J'appris plus tard qu'un enfant avait signé pour lui. Cet acte d'excommunication n'était qu'une comédie destinée à m'effrayer et à détacher de moi le peuple de Sainte-Anne et des environs. Mais elle manqua son but. Mes paroissiens se rallièrent plus étroitement que jamais autour de moi, bien décidés à ne pas m'abandonner et à ne pas laisser l'évêque m'arracher à eux. Ils me lurent en public l'adresse suivante. Depuis plusieurs années, nous avons été témoins des persécutions dont vous êtes l'objet de la part des prêtres, vos voisins, et de la part de l'indigne évêque de Chicago. Mais nous avons aussi été témoins de vos vertus sacerdotales, de votre patience à souffrir les calomnies. Et notre respect et notre affection pour votre personne n'ont fait qu'augmenter à la vue de toutes ces épreuves. Nous vous sollicitons de ne pas céder en présence des complots perfides de nos ennemis et de ne pas nous quitter. Demeurez au milieu de nous comme notre pasteur et notre père, et nous promettons solennellement de vous soutenir dans toutes vos afflictions et de vous défendre contre vos ennemis. Restez au milieu de nous pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous défendre. Cette adresse, signée par plus de 500 pères de famille, montrait la parfaite unanimité de mes paroissiens dans la volonté de me soutenir. Elle a été une des plus grandes faveurs que le ciel m'ait jamais accordée et me remplit de courage. Ce n'est pas tout. Mes chers colons envoyèrent à l'évêque de Chicago la lettre suivante. À sa grandeur, Anthony Aurégan, évêque de Chicago. Nous, sous-signés, habitants de la paroisse de Sainte-Anne, voyons avec chagrin que vous avez frappé notre digne pasteur d'excommunication, nous protestons par les présentes contre cet arrêt injuste et inique. Nous déclarons que nous sommes prêts en tout temps, comme bons catholiques, à obéir à vos ordres et ordonnances qui seront conformes aux règles de notre Sainte Église et à l'Évangile, mais que nous ne voulons pas vous suivre dans vos erreurs de jugement, dans vos injustices et vos caprices. Nous vous disons ainsi que Saint Jérôme l'écrivait à son évêque que tant que vous nous traiterez comme vos enfants, nous vous obéirons comme à un père. Mais tant que vous agirez envers nous en maître, nous cesserons de vous considérer comme notre père. Considérant M. Chiniki comme un bon et vertueux prêtre, nous avons unanimement décidé de le garder au milieu de nous et de le défendre contre les persécutions dont il est l'objet. Cette adresse, signée par plus de 500 chefs de famille et reproduite par presque toute la presse des États-Unis, tomba sur la tête de notre impitoyable ennemi comme un coup de foudre. Mais elle ne changea rien à ses dispositions. Il publia les écrits les plus mensongers auxquels je répondis par une lettre très ferme. C'était la première fois qu'en Amérique, un prêtre soutenu par son peuple osait résister publiquement à son supérieur. Aussi, ma lettre fit-elle grand bruit. La presse la reproduisit presque partout, et des centaines de prêtres des États-Unis et du Canada m'écrivirent pour me remercier et m'encourager. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, me donnèrent une triste preuve de leur lâcheté en ne promettant qu'un secours purement platonique et en me demandant le secret plus absolu sur leurs intentions. Mais cela ne me découragea pas. Dieu qui sonde les cœurs savait que moi et mes paroissiens, nous mettions bien plus de confiance dans son secours que dans nos propres efforts. Nous étions certains que le droit était de notre côté, et l'Évangile était notre pierre fondamentale. J'avais d'ailleurs la propre voix de mon Église pour m'assurer que l'arrêt d'excommunication lancé contre moi était sans valeur. Dans le célèbre ouvrage « Historique du droit canonique », volume 3, page 139, je lisais ces paroles. « Il n'y a pas de pouvoir arbitraire dans l'Église du Christ ». Le célèbre concile d'Augsbourg, tenu en 1548, dans son 24e canon, décréta qu'aucune sentence d'excommunication ne pourra être lancée si ce n'est pour de grands crimes. Le pape Gélase a dit enfin dans son fameux canon Qui est, 3e quest, « Si une sentence injuste est prononcée contre quelqu'un, il ne doit en faire aucun cas, car devant Dieu et son Église, une sentence injuste ne peut nuire à personne. Que celui-là donc, contre qui une pareille sentence a été prononcée, ne fasse aucune démarche pour la faire annuler, car elle ne peut aucunement lui nuire. » Le 1er janvier 1855, prosterné dans mon humble oratoire, j'avais promis à Dieu de m'opposer de toutes mes forces à la tyrannie de l'évêque Aurégan. J'étais loin alors de prévoir toutes les conséquences de ma lutte avec ce prélat. il est probable que j'aurais reculé si quelqu'un eût pu me montrer que la voie où je m'engageais allait me faire sortir de l'église de Rome. Ma seule ambition était de purifier mon église des abus criants que les évêques y avaient implantés partout. Je m'étais sincèrement offert à Dieu pour cette œuvre. Je sentais cependant, dès le commencement, que j'entreprenais une tâche au-dessus de mes forces. Mais j'avais la conviction que Dieu était de mon côté et qu'il me protégerait tant que je n'aurais pas d'autre motif que de soutenir les droits de la justice et de la vérité. Dans l'automne de 1856, notre lutte avec l'évêque de Chicago avait déjà pris des proportions que je n'avais certes pas prévues. La presse entière des États-Unis, comme celle du Canada, en discutait les causes et les conséquences, les uns me dénonçant sans mesure et m'attaquant avec acharnement, pendant que les autres me défendaient avec zèle.